Bonjour chers auditeurices et bienvenue en discussion, une série d'entretiens menés avec les collectifs et les ateliers partagés de la ville de Marseille. Ces discussions sont l'occasion de s'intéresser à leurs pratiques et leurs questionnements qui ensemble participent à repenser les modèles. Aujourd'hui, on tend l'oreille et on écoute Mastic.
Il est né l'année dernière, en juillet 2021, aux Beaux-Arts de Marseille, après les diplômes. Il a été à l'initiative de trois membres de Mastic, qui sont Bronti, Victor et Clément. Ils avaient envie de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait après un diplôme des Beaux-Arts? Et surtout, comment on va créer, continuer à s'investir dans la ville, etc. Et surtout, comment on se professionnalise? À la suite de ça, ils ont fait appel à leurs copains et copines des Beaux-Arts. Et du coup, le collectif s'est monté comme ça, au fur et à mesure. Entre juillet et octobre, le collectif a pris de l'ampleur. Les gens ont cru au projet. Et du coup, on arrive à 15 membres cofondateurs et cofondatrices de Mastic. Voilà.
Vraiment, on insiste cette idée... À la base même, la genèse du truc où c'était, on était tous et toutes dans un atelier et on partageait cet espace et en fait, on s'est quand même pris les deux années de pandémie aussi et on a sorti pas mal d'énergie en fait. On avait encore accès à l'atelier, encore accès à l'école et on arrivait quand même à arriver à organiser des choses dans l'école ou arriver à montrer notre travail dans l'école quoi. Donc il y avait vraiment ce truc aussi qui nous a pas mal soudés à la base, qui a vraiment créé le truc, quoi, cette espèce d'esprit de collaboration, et créé une nouvelle énergie quoi, à une période où c'était quand même compliqué.
Et ouais, là ça a un peu prise aussi quand tout ça c'est aussi relié avec les rencontres de la vie marseillaise, avec du coup aussi d'autres amis qui venaient d'écoles du Sud aussi, qui sont passés Beaux-Arts de Aix pour Alexandre par exemple, ou les Beaux-Arts de Toulon pour Joshua, et qui en fait créaient aussi quelque chose qui pouvait dépasser un peu juste ce cadre des intérêts professionnel du futur après l'école, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, et aussi d'avoir envie de faire des choses avec d'autres personnes, surtout par affinité amicale, quoi, et voilà, du coup ça a donné ce beau projet.
Ce qui était intéressant aussi dans Mastic, c'était qu'il n'y ait pas que des artistes plasticiens, et qu'on fasse appel à d'autres personnes, et notamment du coup des professionnels de l'art. Donc il y a Colline qui est plus dans la médiation et moi qui suis historienne de l'art. Et du coup, c'est aussi ce qui est intéressant dans Mastic, c'est qu'il y a des pratiques pluridisciplinaires, mais qu'il y a aussi d'autres champs en fait de recherche et qui permet aussi de fédérer nos forces et nos champs de compétences pour justement pouvoir grandir et créer un truc autre que ce qui se passe déjà à Marseille, notamment les collectifs juste d'artistes purs, etc. Du coup, ça nous permet quand même de réfléchir peut-être pas mieux, mais différemment. Et donc voilà.
Mais c'est presque à ce moment-là aussi, en fait, quand il y a eu. Quand le collectif il a commencé à vraiment sourire et qu'on n'était pas que des praticiens et des praticiennes, et qu'il y avait aussi, du coup, Alexia qui arrive en tant qu'historienne. Puis Colline, en fait, ça a amené carrément une autre énergie aussi dans le truc, et on s'est dit, en fait, le truc, ça va être. Peut-être qu'on va chercher à faire qu'un atelier ou que.
Bon, ouais, en tout cas, tout ça, c'est vraiment saisi sur l'idée, à un moment donné, d'avoir un espace, un lieu pour tout ce qui pouvait en sortir, puisse dialoguer avec Marseille, avec les autres acteurs de la scène artistique, culturelle, un peu de manière large, et aussi de manière sociale et tout, de comment qu'est-ce qu'on fait de toutes les choses dont on a envie de faire ensemble. Et pour ça, l'énergie du collectif s'est pas mal orientée dans la recherche aussi du lieu idéal et de l'espace idéal pour mettre à profit tout ce qu'on avait envie de faire.
Parce que l'idée peut paraître un peu, pas candide et naïve, mais utopiste. C'était juste en fait, au fur et à mesure des réunions, quand on cherchait un lieu, etc., on a remarqué qu'on ne pouvait pas juste faire un atelier d'artiste C'est déjà un gros projet, mais que ça devenait plus une sorte de projet culturel, en fait, où il y avait de la création, de l'animation, de la diffusion. Et du coup, l'ambition, elle a pas grossi, mais changé. En tout cas, on a changé d'axe. Où on s'est dit, OK, on va pas faire juste un atelier où on produit, on va rester dans un entre-soi. En fait, on veut s'ouvrir aux autres et on va apprendre des autres. Et eux, on espère qu'ils puissent apprendre de nous et tout. Et aussi en prenant exemple sur ce qui se passe déjà à Marseille, on s'est dit, OK, on fréquente ces lieux-là, que ce soit les run space ou même les ateliers d'artistes, etc. Mais du coup, quelles sont leurs forces? Comment nous, on peut s'inspirer de ces forces-là et en faire un nouveau truc? Du coup, vient la question de l'économie directement, parce que pour avoir un lieu, forcément, il faut de l'argent. Et du coup, on s'est rapproché d'autres structures.
Du coup, ouais, si on va potentiellement faire des événements qui seront entre le vernissage, les concerts live, la performance, etc. Du coup, là, il y a évidemment la question du bar. Donc, quand on aura un lieu, je pense que le bar prendra une partie de ça. Mais après, il n'y a pas que ça. On pourra prétendre des subventions au bout d'un an. Alors, on les a passées, mais de peu, quoi. On ne s'est pas encore mis. Et sinon, sinon, nous, on met de notre poche et on va lancer un crowdfunding à un moment.
Parce qu'en fait, on a du coup essayé de se rapprocher, de ratisser large pour trouver le lieu idéal pour notre projet et du coup aller vers la mairie. Donc on s'est tourné vers la mairie et ça a été un peu compliqué parce qu'ils étaient débordés eux aussi vu qu'il y avait la fermeture de bureau police et ils ont dit vous n'êtes pas les seuls en fait à nous demander de l'aide et nous on n'a pas d'aide à vous proposer ni à vous fournir donc va falloir vous débrouiller un peu par vous-même. Du coup, on s'est rapproché du directeur des Beaux-Arts de Marseille, donc retour à la case départ. En suivant notre projet, en organisant des entretiens avec lui, formels ou informels, etc., il a compris qu'on était vraiment déterminés. Et du coup, il nous a vraiment apporté du soutien et des conseils et des blagues. de fil en aiguille, pendant un an, du coup, on est resté, enfin, on est toujours d'ailleurs sans maison, on a rencontré Jacqueline Nardini, on lui a parlé du projet, elle savait qu'on avait le soutien de Pierre Roudard, le directeur des Beaux-Arts, et elle nous a donné un contact qui avait un immeuble. Voilà. Et depuis que on ne va pas trop en parler non plus, mais en gros, le projet, ce serait à terme, en janvier 2023... ouvrir ce lieu et du coup on s'y prépare là déjà depuis un an à coup de rendez-vous d'entretien auprès de la mairie, des structures des collectifs, des run space, enfin on essaie de d'en parler un peu à tout le monde donc on va voir, on se prépare du coup pour ça.
Dans un premier temps il y a eu vraiment le souci pour le collectif de se structurer, de le modèle associatif, ça a été très vite la solution pour se positionner en tant qu'entité face aux personnes, aux partenaires avec qui on aurait besoin de travailler. Et donc on a aussi énormément appris sur le tas sur les modes de gouvernance, sur le fait de s'organiser entre nous, de se réunir, de faire des choix, de
prendre des décisions.
Oui, voilà, prise de décision, enfin les classiques. Et puis après aussi, économiquement, comment on arrive à avoir quelque chose qui puisse se suffire.
Ce serait créer une microéconomie indépendante, histoire d'être libre par rapport aux structures, qu'elles soient institutionnelles ou privées, parce qu'en fait, on a envie de faire ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand on est redevable financièrement auprès de quelqu'un et leur dire oui, donnez-nous de l'argent, mais vous n'aurez pas de droit de regard sur ce qu'on en fait. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Et du coup, cette microéconomie-là, elle pourrait être créée en soulevant des ateliers à des artistes qui en ont besoin, ou en imaginant des résidences, ou justement, comme Alex disait, en faisant des soirées. Parce que, les soirées et la fête, c'est une source d'argent conséquente, et ça, on le sait bien. Du coup, à terme, ce serait ça l'idée.
Par rapport au projet du lieu, je pense qu'en termes d'énergie, on a arrêté de compter, là, on a dit. Économiquement parlant, en fait, même moi, quand il y a un moment donné où j'ai discuté beaucoup avec des gens du vendeur à Paris, qui est quand même une grosse machine, et même eux, ils dégagent en fait qu'un seul salaire. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui est payée, qui est payée pour faire de l'admin et de la compta et des choses comme ça. Et je pense qu'à terme, il faut qu'il y ait une personne qui soit comme ça dans le lieu et dans le collectif. Il nous faut ça, je pense qu'on va avoir besoin de ça, parce que c'est pas possible de, en tant que plasticien, d'arriver à gérer autant de choses qui sont vraiment des questions en plus hyper pointues vis-à-vis de la gestion du lieu, de la gestion de l'économie du collectif et du lieu. Et donc ça me paraît être quelque chose de, enfin, à terme en tout cas, ça peut être une très bonne chose et une chose essentielle au bon fonctionnement du lieu et du collectif.
Aujourd'hui, on est nombreuses à avoir un job alimentaire à côté quand même, ou quelque chose qui permet de compléter, parce que évidemment, et forcément, même si le collectif, donc c'est plusieurs personnes qui ont plein d'énergie à mettre dedans, par exemple, sur le lieu, forcément, il y aura les conséquences de toute la charge de gestion et de choses comme ça qui demandent d'avoir un temps plein à mettre dedans, parce que c'est... on a vu aussi avec Bureau Police la taille de l'organisation, la structure de Yasuke en paquet. Enfin, ça représente aussi une énorme charge de travail. Et quand on se projette aussi sur la manière de faire vivre le lieu, d'organiser aussi de l'éducation artistique et culturelle, donc d'aller chercher aussi toute l'intérêt aussi social d'une association, c'est-à-dire de pas être uniquement un lieu destiné à des artistes ou à des gens qui sont déjà intellectuellement, mais qu'on ait aussi un lien avec l'envie de faire venir des résidents, des choses, enfin, et d'être ouvert aussi aux idées qui peuvent nous être prêtées, et toute cette énergie que ça va demander, déjà qu'on voit aujourd'hui, celle qu'on met pour en arriver là, on sait très bien que c'est dans l'intérêt du collectif à un moment donné d'arriver à dégager économiquement un salaire.
Sans même parler du lieu ou quoi, juste depuis un an, l'énergie qu'on déploie bénévolement à notre échelle, selon qui travaille, qui est encore à l'école, qui a un taf alimentaire à côté et tout, c'est beaucoup d'organisation déjà. Et le fait d'être bénévole, ça fait qu'on s'épuise un petit peu juste pour faire tourner le collectif et même prendre de l'ampleur, etc. Ou des trucs... peut-être un peu, il doit penser, mais parlons d'Instagram ou des trucs comme ça, c'est des choses à gérer les réunions. On se réunit chaque semaine aussi pour qu'il y ait toujours un peu un suivi, qu'on diffuse bien correctement l'information. Et même ça, c'est une grosse charge mentale pour tout le monde. Mais après, c'est vrai que dans le collectif, il y a une sorte, même si on est une organisation collégiale, une sorte de hiérarchie qui s'est dessinée par rapport à l'investissement de chacun. Et ça, je pense que c'est important à le dire, parce qu'au début, c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais au final, c'était nécessaire que ça prenne cette forme-là. Et oui, effectivement, quand on aura le lieu, on espère pouvoir dégager des salaires ou peut-être se rémunérer, ou au moins ne pas avoir à payer le loyer. Mais pas tout de suite.
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du coup de votre pratique en tant que collectif, et si vous avez une pratique de collectif, ou si c'est plutôt d'une autre façon
En tant que plasticien, on a tous une pratique qui est d'abord, je pense, individuelle. Après, il y a déjà eu dans le collectif des binômes ou des trinômes qui sont formés. Moi, par exemple, j'ai exposé avec Joshua à Toulon. Joshua a aussi exposé avec Bronti à Kilo 13. Et là, par exemple, aussi pour Murmuration 2, je collabore avec Anissa et Louise. Mais après, on ne bosse jamais à 15 plastiquement, quoi. Mais après, notre projet n'est pas que plastique, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et du coup, on bosse à 15 sur la création, la gestion du lieu et du collectif, quoi.
Et là, pour Murmuration, par exemple, comment est-ce que ça s'est passé
C'est pas mal d'individualité. Il y a quelques échanges qui se sont faits, mais peu. Mais en fait, on essaie plus de faire un truc de... On a un thème commun, mais il y a plus qu'un... Enfin, il n'y a pas 15 pièces, mais il y a plus... X petites pièces ou grosses pièces qui collaborent ensemble pour former une entité, quoi.
En fait, quand on a été invité à Murmuration, on s'est tous réunis, et l'idée, c'était de vraiment trouver un thème commun pour pas que ce soit complètement disparate et que les pièces puissent pas dialoguer les unes avec les autres, parce que les univers de chacun et chacune est tellement... éloigné à certains moments, que c'est vrai que c'était compliqué de rassembler tout le monde, et du coup on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on a envie de montrer en tant que collectif et nous en tant que mastic, et du coup en fait le fait qu'on n'ait pas de lieu pour produire ces futures pièces a été ce qui nous a stimulé pour faire l'exposition à Murmuration, et du coup on est parti du fait que en fait comme on n'avait pas d'atelier on se rejoint toujours chez les uns et chez les autres, donc à la maison, et du coup on est parti sur le thème du foyer, du domestique, etc., et ça convenait un peu à tout le monde parce que du coup tout le monde pouvait trouver une forme qui était cohérente avec ce thème-là, et puis on trouvait ça un peu rigolo de recréer un peu un espace domestique.
Tout ce qui s'est passé depuis le début du collectif dont on parle, on travaille, on met de l'énergie pour ouvrir un lieu, pour faire des choses et tout, en fait ça se passe toujours soit chez l'un, soit chez l'autre, autour d'un verre de bière, de je sais pas quoi, et enfin avec toujours cet espace qui est le fait que fait avec
Et puis c'est les endroits où se sont créées les affinités du collectif, en fait, à petite échelle, genre en binôme quoi, ou même aussi du coup à grande échelle à 15, et du coup c'est aussi les endroits où on fait la fête, et voilà. Et puis bon, par rapport aussi à la pandémie, c'était cohérent de parler de chez nous vu qu'on était bloqué, donc voilà pour le thème, et c'est vrai que ça reflétait bien l'esprit général et de ce qu'on avait envie de montrer, en tout cas pour Mastic, à Murmuration. On cherche une maison.
Pourquoi Mastic ?
Pourquoi Mastic ? C'est une super bonne question. C'était une longue réunion, en plus. La réunion où on a dû choisir le nom du collectif.
Mais on a évité dîner, donc c'est peut-être pour ça Mastic, c'est la raison.
Non, il y avait eu. On cherchait. Je crois que on était principalement que les gens de l'atelier, ce que je disais au début, ce fameux atelier de l'école. Et je crois qu'on était tous en train de se chercher un truc commun, et quasiment que des gens qui faisaient de la sculpture, du coup. Je sais plus d'où vient le truc. En fait, à la fin de la réunion, on avait pondu une liste avec peut-être 20 mots. Il n'y avait rien à voir les uns avec les autres.
Il y avait passé 6 dehors.
C'était un peu l'angoisse, et je crois que en fait on en avait bien marre à la fin, et on s'est dit Mastic,
La fatigue quoi, l'usure,
comme le reste.
Comme le reste.
Ça me sent super bizarre.
Tu pourras couper s'il te plaît.
J'ai perdu mes moyens.
Aidez-nous à trouver une maison.
Ouais.
Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Cet entretien, comme tous les autres à suivre, a été mené dans le cadre de Murmuration Volet 2, une exposition produite par Frame à la Friche Label de Mai, à Marseille. Cet épisode a été réalisé par Cyril Bergougnou, avec l'aide et le soutien de toute l'équipe de Frame. Collectif et aux ateliers partagés de s'être prêté au jeu et d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur notre site internet frame.art. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions.